bougies.
Je ne
sais pas si vous avez remarqué,
le premier dimanche de l'Avent, quand Cédric et Rebecca ont allumé les bougies,
nous avions
le continent de l'Europe, Cédric,
et le continent de l'Amérique du Nord qui était représenté.
Rebecca venant des États-Unis.
Dernier dimanche, nous avons eu Raphaël qui représentait avec Tiffany,
le continent de l'Afrique.
Et maintenant, nous avons le continent de l'Asie. Donc, prochain dimanche, ce sera le continent de l'Amérique du Sud. Et tout ça pour dire que Tikos est vraiment une église internationale. Nous n'avons personne d'Antarctique, donc nous allons laisser ce continent de côté. Mais si vous voulez ramener votre pingouin, vous pouvez. Mais on ne va pas se préoccuper de ça. Est-ce qu'on a des Australiens ici dans l'église? Non, nous n'avons pas. Donc ça, c'est aussi le seul continent. Mais bon, nous avons des gens dont la famille habite en Australie. C'est très intéressant parce que nous venons tous de différentes traditions de manière de célébrer Noël. Et nous réfléchissons aussi à l'idée de célébrer de manière que nous pouvons célébrer de différentes manières Noël, et on est content de cette variété. Alors que nous chantions une chanson qui parlait des anges, qui disait « Réjouissez-vous, annoncez », j'ai pensé au fait que, pendant, comme je suis en train de lire le livre de Luc, en ce moment on est au chapitre 15, je pense à la parabole au sujet d'une brebis qui a été trouvée, d'un fils qui a été retrouvé, et ça me fait vraiment penser à la joie des anges voilà, les gens qui se réjouissent quand quelqu'un est retrouvé. Et pourquoi est-ce que ça nous surprend? Et bien, aussi lors de la venue de Jésus quand il est né, et bien les anges étaient dans la joie. Pourquoi en fait il n'y aurait pas une fête auprès des anges quand les gens viennent au salut? Il y a une célébration constante. Une célébration constante des anges. Est-ce que ce n'est pas excitant tout ça? Pensez lorsque vous êtes venu à Christ et la célébration qu'il y a eu dans le ciel pour vous. Et nous louons le Seigneur pour ça. Je vous invite à aller dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1. Nous allons lire le verset 18. Et nous continuerons après, plus loin dans ce chapitre. Donc là, nous avons le compte-rendu de la naissance de Jésus par Matthieu. Voici, donc de verset 18, de quelle manière il arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Père céleste, alors que nous venons à ta parole aujourd'hui, nous venons avec ce sentiment d'émerveillement de la naissance de Jésus. Seigneur, je prie que ce message soit délivré par la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ et pour lui seul. Que ta gloire, ton honneur, Seigneur Jésus. Amen. Il y a quelques années,
à notre maison, là où nous habitions lorsque nous étions pasteurs de notre deuxième église. Nous étions dans un petit village de Floride et on était un peu à l'extérieur de la ville. Il y avait plus de campagne là-bas, plus de routes. Alors que j'allais au lit, j'allais me préparer à aller au lit, j'ai pensé tout d'un coup, ah, mais demain matin, les éboueurs vont venir pour récupérer les poubelles et j'avais oublié de la sortir. Alors bon, c'est quelque chose de normal, hein, ordinaire, on oublie. Et là, alors que... Alors je me dis, ah, mais non, c'est bon, tant pis, je la sors pas, ça peut encore attendre une semaine. J'avais pas envie de sortir, il faisait sombre, j'avais pas envie d'aller le long du chemin, là, dehors. Alors je luttais avec moi-même, puis bon, finalement j'y suis allée. Alors j'ai pris le sac à poubelle et je suis descendue le long de mon chemin, là, vers la route, et je marmonnais, je n'étais pas content. Oh, mais pourquoi j'ai oublié? Je mets la poubelle là dehors et puis je m'arrête dehors là. Et pour une raison, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé le ciel. Et c'était une des nuits les plus claires, dégagées. Il n'y avait pas de lumière dans les rues qui aurait m'empêché de bien voir le ciel. Et en fait, les étoiles, elles remplissaient le ciel. Et c'était impressionnant. Alors que je regardais ces étoiles, c'est comme si elles étaient là pour toujours. Bon, bien sûr, elles sont là pour toujours. Mais j'étais en train de louer Dieu, je l'adorais pour sa beauté. Et soudainement, toute ma râlerie s'est transformée en louange. Et j'étais reconnaissant d'avoir sorti la poubelle. J'étais reconnaissant d'avoir fait la chose la plus ordinaire dans ce moment le plus ordinaire. Et ben Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert mon cœur pour voir sa main. Je pense qu'il y a vraiment un principe ici, que Dieu aime faire des choses comme ça. Il aime nous interrompre les choses ordinaires de nos vues, nos schémas, et il ramène cette chose à sa présence extraordinaire dans nos vies. Le truc, c'est que nous avons besoin de voir ces interruptions, ces opportunités de voir Dieu, de chercher Dieu et de voir sa main. Et le bon exemple, c'est Joseph. Dans l'évangile de Luc, nous avons la perspective de Marie, et je crois qu'on aura ça en spectacle le dimanche 22. Je crois que vous aurez même une meilleure place de parking si vous venez tôt. Quand je pense à la vie de Joseph, je vois cette chose vraiment intéressante. Des fois, je crois qu'on néglige son histoire et à quel point elle était importante. Vous savez, la vie de Joseph avait un bon futur. Hein. Il n'était pas riche, mais voilà, il était un homme honnête, il avait un commerce, c'était un ébéniste, un charpentier, il savait ce qu'il devait faire, il avait une vie ordinaire. Mais c'était une bonne vie. Et il était fiancé à Marie, une jeune femme. Et dans leur tradition, vous savez, les fiançailles, c'était comme être marié. Elle allait vraiment être sa femme. C'était pas peut-être qu'elle allait être sa femme, c'était certain. Et dans le système israélite, les fiançailles, c'était comme le mariage. Donc il savait qu'elle allait être sa femme, et qu'elle était cette jeune, jolie femme qui avait un très bon cœur, parce que nous comprenons que Marie avait un bon cœur quand nous lisons la suite de l'histoire. Si on devait la décrire, elle avait une innocence, une pureté dans ses yeux. Elle avait sa beauté qui débordait de l'intérieur. Elle était aimable envers lui et elle allait être sienne. Elle allait lui appartenir. Et ils allaient construire une bonne vie tranquille à Nazareth. Et Nazareth, ce n'était pas un village significatif, mais ça allait être un endroit pour vivre, pour travailler, pour élever une famille. Quand nous lisons dans l'évangile de Luc, elle est absente pendant 3 mois. Elle va chez sa cousine, Élisabeth, qui, elle, était enceinte de Jean-Baptiste. Et on connaît cette histoire. Donc, elle revenait de chez sa cousine, mais alors qu'elle s'approchait de Joseph, elle avait l'air différente. Son sourire n'était plus là, ses yeux étaient troublés, elle lui a parlé. Et imaginez la première fois où Joseph a entendu Marie dire « je suis enceinte ». Alors, je ne sais pas, mais si on peut utiliser notre imagination sanctifiée, il devait y avoir une souffrance dans sa voix, mais pas un sentiment de culpabilité. Elle savait d'où venait ce bébé. J'imagine Joseph qui devait tout d'un coup voir ses plans complètement brisés, tout ce qu'il anticipait, son futur qu'il anticipait, tout d'un coup, soudainement, était interrompu. Elle parlait encore, elle lui parlait encore, elle disait « Mais c'est le Saint-Esprit, un ange qui me l'a annoncé ». Mais lui, il se disait « Mais attends, mais c'est pas mon bébé ». J'imagine que vraiment sa vie a dû être brisée, la vie de Joseph à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Ses émotions étaient probablement mêlées de colère, d'incertitude. Et quand sa déception et l'idée que ces choses se sont passées, il devait avoir une vraie souffrance à l'intérieur de lui, au plus profond de lui-même. Et pourtant, elle avait l'air si innocente, et lui, il se souciait d'elle. Donc, pensez à ce moment-là, un moment. Quand on regarde à ces personnes, on lit ces passages, on se dit en fait, non, ce n'est pas des humains. Des fois, on les imagine comme des caractères de romans, mais en réalité, c'est vraiment des vraies personnes qui étaient vraiment placées dans des choses réelles. Imaginez juste que vous êtes là avec Joseph. Imaginez juste votre propre vie. Vous avez vos rêves, vos plans, vos désirs. Tout va bien dans votre quotidien, dans votre routine. Et tout d'un coup, le système est interrompu. Les choses mondaines érodées par tout d'un coup la souffrance. Et à ce moment-là, tu n'es certainement pas en train de te dire que Dieu, il est peut-être en train de te positionner vers un moment où Dieu, il va venir puissamment dans ta vie. Dieu, il veut interrompre nos vies ordinaires avec sa présence extraordinaire si nous écoutons, si nous regardons et si nous vivons avec lui dans son abondance. Alors, la première des choses, alors que nous regardons ce passage, c'est vraiment l'importance d'écouter sa voix, écouter ce qu'il dit. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Dieu, il aime bien avoir notre attention. Vous savez, c'est comme, voilà, je suis occupée, j'ai l'impression que quand je suis allée sortie, j'ai sorti la poubelle, j'étais concentrée sur l'idée je devais sortir la poubelle. Et là, Dieu, il avait envie d'avoir mon attention. Vous savez, des fois, ce sont mes réactions que Dieu révèle comme n'étant pas bonnes. Et là, alors, il m'attire à lui pour m'en faire rendre compte. Et il m'attire à sa voix. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Joseph, c'est que qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Joseph?
Joseph
était un homme de bien et il ne voulait pas, c'était un homme juste et il ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Alors il avait comme idée de la divorcer de Marie parce qu'il se disait mais ce bébé c'est pas, il n'est pas à moi. Même si elle disait qu'il était du Saint-Esprit, lui il n'avait jamais entendu ça. Mais voici la chose unique au sujet de Joseph, c'était un homme juste. Et un homme juste, il écoute Dieu. Même s'il ne comprend pas le message, il écoute. Et je crois que moi j'ai envie d'être comme Joseph et de réagir comme lui. J'ai envie de contraster sa justice avec celle d'un pharisien. Il n'était pas pharisien. Je ne crois pas que Dieu n'aurait jamais permis d'être, que son fils soit élevé par un pharisien, n'est-ce pas? Ça, ce n'était pas son plan. Et Joseph, lui, n'était pas pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un de sourd, de rigide, qui n'écoute pas. Un pharisien, il cherche l'agrément des gens. Et si les gens pensent que je suis juste, ben c'est que je dois être juste. Mon cœur, ça peut être en complètement en désordre, ça peut être une vraie déchetterie à l'intérieur. Mais si tout le monde pense que je suis juste, ben, ça veut dire que je suis juste. Donc ma réaction aux choses, c'est que j'ai l'air bien. Peu importe mes attitudes ou mes motifs à l'intérieur de moi. Mais ça, ce n'était pas Joseph. Joseph était différent. Vous savez, un pharisien aurait peut-être réagi complètement différemment par rapport à Joseph. Peut-être qu'il aurait pu déshonorer ou lapider, faire lapider Marie. Et ça l'aurait fait se rendre, il se serait senti plus juste. « Oh, regardez cette femme méchante, regardez qu'est-ce qu'elle a fait. » Et les gens auraient pensé « Oh, qu'est-ce qu'il est juste cet homme, parce qu'il a réagi de manière juste. » Enfin, soi-disant de manière juste. Mais ça, en fait, vous n'entendrez pas du tout Dieu vous parler si vous avez cette attitude. Et Joseph, lui, ce n'est pas cette attitude qu'il avait. Vous savez, un homme juste écoute Dieu parce qu'il souhaite plaire davantage à Dieu qu'aux hommes. Et plus que ça, il a envie d'avoir un cœur juste et que la justice coule de son cœur. Un homme juste écoute parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Et Dieu parle à celui qui écoute. Vous savez, je peux vraiment imaginer que cette nuit-là, alors que Joseph essaye de dormir, verset 20, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais là, un ange lui est apparu dans un rêve. Alors je pense probablement que ce n'était pas le meilleur sommeil qu'il ait eu. Je pense que son cerveau était en ébullition. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ça. Votre corps dit qu'il faut dormir, mais votre tête elle est complètement en ébullition. Vous savez, des fois, moi, je suis allongé et je rumine, je pense à plein de choses. Et je pense que Joseph, il devait être comme ça à ce moment-là. Mais il a rêvé et Dieu le rencontre. Vous savez, Dieu, cette interruption de Dieu dans la vie de Joseph avec Marie qui tombe enceinte, eh ben, c'est à ce moment-là que Dieu commence à lui parler. Vous savez, des fois, je crois que Dieu agit de la meilleure manière lorsqu'on est dans cette situation-là. Alors là, il y a Joseph qui dort, et voilà Dieu s'annonce. Vous savez, je pense que Dieu nous parle dans la souffrance. Plus de souffrance. Non, c'est pas ce que je dis. Mais la réalité, c'est que quand nous sommes des moments de stress, de souffrance, c'est là que Dieu nous prépare à écouter. Ça nous rend dépendants de lui. Vous savez, Dieu parle à la personne qui est ouverte, tendre et même brisée. Qu'est-ce qui brise ton cœur? Tu sais, quand ce sont des moments là-dedans, c'est des moments que tu traverses, ne regarde pas au sol, n'éteins pas la voix de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu écoutes Dieu. Vous savez, il faut aussi prendre des temps calmes. Et les temps calmes, ça prend du temps. Je ne sais pas combien d'entre vous prennent du temps pour être juste calme. Vous savez, ça me prend un peu de temps quand je rentre chez moi de passer le seuil de ma porte et tout d'un coup être calme. Vous savez, ça me prend un peu de temps. Donc, vraiment, si vous voulez garder une phrase de ce message aujourd'hui, eh bien, c'est celle-là. Être calme prend du temps. Si vous ne permettez pas au calme de venir, vous savez, c'est dans ces moments-là que Dieu nous parle et nous dirige. Et des fois, nous devons regarder en arrière et voir sa main. Alors que je devais sortir cette poubelle ordinaire, eh ben, c'est là que j'ai vu la création merveilleuse de Dieu. Alors, nous écoutons sa voix. Joseph écoute, il entend la voix de Dieu. Quel est ce message? Est-ce que ce message, il dit, « Ah, mais tout va bien, ce bébé, il vient de Dieu. » Bon, oui, c'est ça qui lui est dit, mais il y a plus. C'est que l'intervention de Dieu donne, amène sa gloire dans nos vies. Quand les difficultés, les souffrances, quand nos plans ils sont brisés, quand on pensait que le plan ça devait être ça, mais ça, en fait ça va complètement être transformé, interrompu par la... par l'interruption de Dieu. Vous savez, ce qui semble être une interruption dans la vie de Joseph, c'est en fait l'interruption divine de Dieu dans l'humanité. Donc, Joseph, peut-être qu'il peut penser, « Ah, mais ma vie de famille va être complètement en bazar. » Mais en fait, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour sa vie. Verset 21. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enfin enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'interruption, l'intervention, c'était pour nos péchés qui affectent la société, les familles sont brisées, les péchés vraiment affectent nos vies. Nous pouvons voir l'effet du péché, mais il faut que nous regardions aussi à l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'histoire ne voulait pas Jésus. Mais l'histoire avait besoin de Jésus. Nos péchés, l'effet du péché sur la société, oui, on les voit, mais les choses ont changé parce que Jésus est venu. Nous avons été transformés par la grâce de Jésus. Nous voyons le coup de pinceau de la grâce de Dieu. Et Dieu qui peint cette belle œuvre pour sauver l'humanité. Et nous voyons cependant cette fine ligne, ce trait fin de Dieu qui travaille dans nos vies. On voit vraiment que la venue de Christ a transformé l'histoire de l'humanité. Il faut vraiment que tu fasses et que tu regardes autour de toi. Vous savez, nous vivons ici en France et nous vivons ici dans un pays où l'histoire a été marquée par tout ce qui s'est passé, par la venue de Christ. Ça a complètement changé la planète. Les gens viennent à Jésus sur toute la planète. Les gens viennent à la foi en Jésus. Les gens rêvent de Jésus, ont des rêves de Jésus. Là où les missionnaires ne peuvent pas aller, là où l'Évangile ne peut pas venir physiquement, eh bien, il y a des gens qui ont des rêves comme ça de Jésus. Et grâce à cela, ils se convertissent à Jésus. Et ça, ça se produit en ce moment dans notre monde. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu. Joseph a cherché, il a observé et il a vu que sa vie était plus et sa vie était plus qu'une simple vie. Vous imaginez qu'il tenait le bébé Jésus et il devait penser en le regardant, mais ça c'est le salut de Dieu pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Qui tenait ce bébé et qui regardait à ce bébé dans ses yeux et qui devait se rendre compte de qui ce bébé était. C'est impressionnant. Vous pouvez penser que, alors que Jésus était un petit enfant, son père, Joseph, était en train de l'enseigner ce que c'est d'être charpentier. Et quand Jésus devait regarder Joseph qui faisait ses projets son établi avec le bois dans ses mains, je me demande des fois qu'est-ce que Joseph devait voir dans les mains de ce petit enfant. Joseph devait peut-être pas seulement regarder Jésus comme un petit charpentier, mais aussi comme le créateur qui a créé ce bois. Je me demande des fois s'il regardait les yeux de Jésus et qu'il voyait quelque chose de plus dans les yeux de cet enfant. Des fois, je me demande, quand il regardait cet enfant et qu'il pensait au fait qu'il était vraiment le Messie, le salut de tous les hommes, je ne sais pas s'il réalisait que vraiment la présence de Dieu était dans sa maison. Est-ce que vous regardez à la présence de Dieu dans votre vie? Vous savez, on voit Dieu dans nos choses ordinaires. Moi, je suis convaincue que si on ne peut pas voir cela, c'est parce que nous ne regardons pas. Est-ce que tu as vraiment envie de regarder? Vous savez, on a chanté une autre chanson sur le fait d'être reconnaissant et de donner de la reconnaissance à Dieu. Vous savez, je me rends compte que si je veux commencer à voir la main de Dieu dans ma vie, il a vraiment une manière de s'exercer à voir sa main. Moi, je veux vous donner un exercice. Je veux que vous puissiez remercier Dieu pour tout ce que vous avez vu qu'il a fait dans votre vie. Le faites pas maintenant, vous pouvez le faire aussi maintenant dans vos têtes, mais faites-le dans vos habitudes. Commencez à remercier Dieu pour toutes les choses qu'il a faites, et même les choses les plus mondaines, les plus ordinaires. Et vous commencez à lister ces choses-là. Et au début, je pense que ta pensée, elle est un peu vide. Je ne veux pas juger, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que je suis reconnaissant? Je suis reconnaissant pour ma famille, mes amis, je suis reconnaissant pour mon église, je suis reconnaissant pour le salut. Ah, mais attends, je suis aussi reconnaissant pour mon boulot, pour ma vie, pour ce moment, pour ce qu'il m'a montré dans la parole ce matin, pour cette promesse. Ah, mais en fait, il y a plus. Je suis aussi reconnaissant pour... il y a plus, de plus en plus. Merci, je suis reconnaissant pour ça. Et je suis reconnaissant pour ce moment où je suis venu à Jésus et pour ce que j'ai premièrement appris au sujet des merveilles de Jésus. Merci pour cette lecture de la Bible. Oh, merci, il y a de plus en plus, et encore. Vous savez, si vous faites ça, vous commencez à vraiment exercer votre pensée, à exercer vos pensées vers Dieu, et vos yeux spirituels commencent à voir toutes les bénédictions de Dieu. Ce qui est dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, chaque don parfait vient du Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Vous savez, vraiment donner simplement vos remerciements à Dieu. Entraînez-vous à ça. Vous savez, il y a J.B. Phillips qui donne cette idée, cette histoire. Il dit à quel point la science, elle découvre toujours plus et plus de la sagesse de Dieu. Et moi, j'étais biologiste et alors, en fait, ça m'a rapproché toujours plus de Dieu, en fait. Vous savez, quelqu'un qui veut utiliser sa pensée, alors que nous découvrons toujours plus de la sagesse de Dieu. Alors voilà ce que J.B. Phillips disait au sujet de Noël. On n'est pas juste en train de célébrer l'idée du vieux Père Noël joyeux ou du roi Wenceslaus. Non, non, nous ne célébrons pas ça. Nous célébrons l'arrivée de Dieu dans nos vies, sa visite dans nos vies. Remerciez-le pour sa présence. Joseph s'est rendu compte que dans sa vie, Jésus, Dieu, était venu. La dernière chose, nous devons vraiment persévérer là-dedans. Nous devons vraiment marcher dans l'abondance et voir les choses que nous n'aurions jamais vues. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc Dieu intervient et il transforme nos vies avec sa venue. Vous savez, mon passage préféré dans ce passage, c'est le verset 24. Quand Joseph s'est réveillé, et ensuite ce qui est dit, c'est impressionnant. Il a fait ce que le Seigneur lui avait dit de faire, et il a pris Marie comme sa femme. Je veux juste que vous imaginiez ce point de tournant dans sa vie. Je peux divorcer d'elle, et je peux vivre ma vie, être charpentier à Nazareth, trouver quelqu'un d'autre. Et pas, je veux pas cette histoire-là. Ou bien, je peux choisir de faire ce que l'ange de Dieu, qui m'a visité pendant mon sommeil, et exécuter ce qu'il m'a dit. Et moi, je sais pas ce que ça va être, mais je crois que je devrais faire ça. Je suis même pas sûr qu'il a vraiment eu ce débat dans sa pensée. J'espère qu'il avait... dans sa tête, mais vous savez, quand Dieu nous demande de déposer nos vies et faire ce qu'il veut, ne soyons pas en train de lui dire, mais tu sais, moi j'aime bien comment ma vie elle est actuellement. Non, il a obéi et il a pris Marie comme sa femme. Vous savez, c'est impressionnant ce qui se passe après. Il est entré dans une nouvelle chose, dans ce que Dieu était en train de faire. Vous savez, tous ces hommes qu'on a vus dans la Bible et qui font des choses ordinaires et Dieu qui les utilise, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Par exemple, Abraham qui était à Ur. Il était prospère, son père il était là, et Dieu il lui dit, je veux que tu ailles ailleurs et je veux faire de toi une grande nation. Des choses ordinaires. Il faisait des choses ordinaires et il a obéi à Dieu.
Moïse, il essayait de sauver son peuple, il avait tué quelqu'un.
Mais après, il a quitté cet endroit en Égypte et puis il était dans le désert et il prenait soin d'un troupeau de brebis. Et oh là là, tout mon quotidien, des moutons, encore des moutons. Et vous savez, c'est très paisible ça, hein. Et tout d'un coup, mais il voit un buisson ardent qui brûle. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Moïse n'avait pas écouté Dieu et qu'il était resté dans son confort? Non, il s'est approché de ce buisson et Dieu lui parle, il le rencontre et Dieu demande à Moïse de libérer son peuple de l'Égypte, d'aller dans le désert, de vivre ce moment où Dieu sépare l'eau, la mer rouge. Eh bien, il était là à voir mouton après mouton dans son quotidien et il finit par écouter Dieu. Ou alors David, qui est adolescent, David, lui, il n'était pas dans l'armée lorsque Goliath, il était en train de défier l'armée israélienne. Israélite, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il a donné... il a livré le repas à ses frères qui étaient dans l'armée. Et David, lui, à ce moment aussi, il était comme Moïse. Il voyait des moutons un jour après l'autre. Il était berger. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il livre le repas? Eh bien, David, il combat Goliath et on sait ce qui se passe après. Ou alors Pierre... Les bergers qui étaient là la nuit où l'ange est venu. Les bergers qui étaient la nuit de Noël dans les champs et qui tout d'un coup ont une annonce, celle des anges, qui lui dit: ah, Jésus est venu. Sinon, au sujet de Pierre, alors Pierre, c'était pas un berger, mais lui, au lieu, il voyait quoi? Des poissons. C'était ordinaire. C'est un boulot, hein. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous avez des emplois, hein. Ce sont des choses ordinaires, du commerce, des services, peu importe ce que tu fais. Mais au milieu de tout ça, eh ben, Dieu il vient dans ces choses-là. À ton travail, là où tu vis, là où tu as tes loisirs, dans tes temps de récréation, eh ben, Dieu il vient. Et il t'amène, il te conduit, il te permet de le représenter. Il veut t'emmener, toi, dans tes choses ordinaires, pour sa gloire, vers des choses glorieuses. Et Joseph. Ils ont tous fait ce que Dieu leur a demandé. Et Joseph, lui, il a fait ce qui lui était demandé, il a pris Marie comme sa femme. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Alors pensez à un moment, sa maison a été changée. Pouvez-vous imaginer que Jésus était dans sa maison? Laissez-moi vous demander, est-ce que ta maison est différente grâce à la présence de Dieu? Est-ce que ton lieu de travail est différent à cause de la présence de Dieu? Vous savez, ce commerce de charpente, il était complètement à part. Il y avait Jésus qui était dans ce commerce. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus était charpentier. Ce commerce de charpente, c'était un commerce parfait. Tous les aspects de ta vie sont différents. Si tu te soumets à la seigneurie de Dieu, si tu laisses Dieu montrer ses opportunités, sa présence. Même au milieu, même quand vous sortez les poubelles, comme je l'ai quand je l'ai fait, et ben, j'ai vu ces étoiles. Et ben, vraiment les choses les plus ordinaires que tu fais peuvent être interrompues par la présence de Dieu. Nous écoutons Dieu dans la prière, nous vivons dans sa parole. Souvent, il faut regarder, prendre des temps calmes et remercier Dieu et nous exercer à reconnaître la grâce de Dieu. Et nous regardons à l'intérieur de nos cœurs. Vous savez, des fois, là je vous parlais d'un passage, lorsqu'on regarde la poutre qui est dans l'œil de l'autre, alors au lieu de regarder notre paille, au lieu de regarder la paille de l'autre, nous regardons à notre poutre. Voilà ce qu'il faudrait faire. Dieu veut te libérer de ton aveuglement. Prends le temps et regarde Dieu travailler dans les choses ordinaires. Parle de cela aux autres personnes. Il y a une simple prière à laquelle je pense et elle est là sur l'écran. Et peut-être que nous devons prier cette prière. Je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux sentir ta présence et je veux vivre avec toi et je suis prêt à faire, je veux faire ce que tu me demandes d'expérimenter dans ta présence. Priez cette prière. Ce matin, dans mon temps de prière, il y a quelque chose qui m'est venu. Alors, je ne savais pas, est-ce que c'était pour le culte de ce matin ou est-ce que c'était juste pour moi? Alors, j'ai décidé que c'était pour nous tous. Alors, je vais vous le partager. C'est un vieux chant. Jésus, je me repose dans la joie de qui tu es. Et je trouve la grandeur de ton cœur aimant. Je ne sais pas comment vous prononcez le nom de cet homme. Je crois qu'il était peut-être irlandais, Jean Pigott. Et je crois qu'il a été tué. Ces mots sont venus à ma pensée ce matin. Je ne la chante pas souvent. Et je veux même ajouter à ça, Jésus, alors que je me repose dans la joie de qui tu es, je découvre la grandeur de ton cœur aimant. Jésus est venu, nous allumons les bougies, nous célébrons Noël et nous venons. Nous réalisons que quand nous nous reposons en lui, au milieu des interruptions, de la souffrance, des épreuves, eh bien je suis ouvert à voir sa grâce et qu'il va venir, il va se révéler, il va me transformer, il va m'attirer davantage à lui parce que je me repose dans la joie de qui il est, de qui tu es. Amen. Père dans le ciel, Père céleste, alors que nous terminons ce culte dans la prière et dans la louange, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin de davantage de prières. Peut-être qu'ils traversent ces temps d'épreuves, d'interruptions, et ils sont peut-être dans la plus terrible des interruptions de leur vie, l'épreuve, la souffrance, les difficultés, l'anxiété. Et ils essayent de la combattre, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide dans cette interruption de toi. Seigneur, je prie que nous acceptions cette main de Dieu et que nous regardions comme Joseph a regardé à toi et que sa vie a changé parce qu'il t'a dit oui. Il a vécu avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Interromps nos vies. Fais-le, peu importe ce que ça nous demande. Seigneur, nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si vous êtes ici et que vous avez besoin de prière, nous avons notre équipe de prière à l'arrière. Je vois Anne derrière. Il y en a d'autres qui peuvent aussi prier pour toi. Prenons le temps de faire ça. Soyons debout alors.